l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence dans la vallée du Lot, 92.5.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce Présence Midi en direct. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h et dans un instant, on va écouter le témoignage bouleversant de sœur Claire Emmanuel, religieuse des filles de Notre-Dame des Douleurs. C'est une congrégation qui est née dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes au 19e siècle. Et cette congrégation est présente à Jérusalem. Elle gère un EHPAD et ce lundi, Anne-Rose Jankovic a donc réussi à joindre sœur Claire Emmanuel qui est en ce moment même donc à Jérusalem. Un témoignage à écouter, un témoignage bouleversant à écouter dans quelques minutes. Et puis dans notre chronique, notre rendez-vous solidarité, Anne Deloy va recevoir Jean-François Guiraud. C'est un acteur actif dans le domaine de la solidarité. Il est bénévole au sein du CCFD à l'espace rencontre CCFD Terre Solidaire à Lourdes. Il nous donnera son explication sur le sens de la solidarité à Lourdes. Et puis à quelques heures de l'ouverture du salon de l'agriculture qui va se dérouler dans les Hautes-Pyrénées à Tarbes, on va évoquer avec Julie de l'Office de Tourisme l'histoire du port noir de Bigorre. Voilà pour les grandes lignes de cette émission. Pour le moment, place à la musique, puisqu'exceptionnellement aujourd'hui, pas d'info régionale, avec Sœur Agathe qui nous interprète Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux. L'info sera de retour à 13h avec, bien entendu, l'actualité nationale et internationale et la rédaction française de Radio Vatican.
Celui-là passe toute la nuit à regarder les étoiles, en pensant qu'au bout du monde, il y a quelqu'un qui pense à lui. Et cette petite fille qui joue, qui ne veut plus jamais sourire, et qui voit son père partout, qui s'est construit un empire. Où qu'ils aillent, ils sont tristes à la fête. Où qu'ils aillent, ils sont seuls dans leur tête. Je veux chanter pour ceux
chanter.
de Sœur Agathe avec Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux. La suite de ce Présence Midi, c'est avec l'invité exceptionnel d'Anne Rose Jankovic.
Radio Présence à Saint-Céré, 95.8.
Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la guerre au Moyen-Orient avec le témoignage bouleversant de sœur Claire Emmanuelle, religieuse de la congrégation des Filles de Notre-Dame des Douleurs, une congrégation née dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes au XIXe siècle et présente à Jérusalem depuis 1957. C'est à Jérusalem-Est que les sœurs œuvrent. Elles y gèrent un EHPAD. Si la vie à Jérusalem n'est jamais vraiment légère, nous dit sœur Claire Emmanuelle, depuis samedi, tout a clairement basculé dans le dur avec les attaques des États-Unis et d'Israël contre l'Iran qui ont enclenché une escalade de riposte. Dans un entretien réalisé ce lundi 2 mars, sœur Claire Emmanuelle nous raconte comment les choses se passent depuis samedi.
Déjà depuis qu'on nous a annoncé samedi matin, c'était mon jour de repos. J'étais au petit déjeuner, j'ai eu un message d'alerte qui a résonné fort dans mes oreilles et comme quoi, ben ça y est, c'était parti. Que les offensives allaient commencer et donc l'État d'Israël envoie sur tous les téléphones qu'ils peuvent avoir des annonces. Et donc, comme quoi, ben, il fallait se préparer, que les écoles étaient fermées, tous les lieux publics, voilà. Donc, on comprenait qu'on partait dans le dur. Et depuis, on vit au rythme des alertes. Et tout à l'heure, on venait d'avoir une alerte et on a eu des missiles qui sont tombés pas très, très loin. Et avec des bombardements qui font trembler toute la maison, en fait. Et on n'a qu'une peur maintenant parce qu'on nous annonçait depuis hier qu'en fait ils allaient commencer à taper Jérusalem-Est et nous c'est Jérusalem-Est. Cette nuit, on a eu un tir qui a retenti, l'alarme évidemment qui a sonné plusieurs fois cette nuit et c'était pas loin. Donc on a peur. Après, autrement, à part le stress, bon là je craque parce que voilà. Mais justement, j'essaye de ne pas craquer parce que ben, c'est moi qui dois piloter un peu tout, donc il faut tenir bon.
Le Home Notre-Dame des Douleurs, c'est le nom de ce lieu de vie, de cet EHPAD porté par les sœurs. Cette maison accueille 26 personnes âgées, 3 sœurs, 3 bénévoles, 14 employés, dont 12 viennent de Palestine. Ces employés qui ne vivent pas sur place et qui prennent des risques chaque jour pour venir travailler. C'est sœur Claire Emmanuelle qui doit elle-même prendre sa voiture pour les conduire le soir jusqu'au checkpoint, où là encore, ils doivent attendre des heures pour être sûrs de pouvoir rentrer chez eux.
Rassurer les gens, faire en sorte que tout se passe bien, qu'on ait tout. Gérer le manque d'employés, les employés qui ne peuvent pas passer, les employés qu'il faut ramener tard le soir dans les routes un peu désertes et pas forcément très sûres. Ben, ceux qui ne peuvent pas circuler parce qu'il y a de moins en moins de bus, donc du coup, ils ont peur et donc il faut les ramener. Et jusqu'au checkpoint, attendre qu'ils soient passés, que ce qui se passe, ça se passe bien. Quand ils ne peuvent pas passer, c'est les loger. Donc là, c'est ce qu'on fait. On a mon bureau, je me suis maintenant au secrétariat, mais mon bureau, c'est devenu une chambre.
Pour les salariés.
Oui, pour pouvoir les accueillir. Et comme on n'est pas reconnu encore ministère de la Santé, on n'a pas des permis qui leur permettent de rester tout le temps. On a des permis limités dans le temps. Donc, de 5h le matin à 10h le soir, on est considéré organisme d'église, donc pas organisme de santé, ce qui fait qu'il faut que tous les jours, ils pointent en arrivant et qu'ils pointent en partant. S'ils ne le font pas, ils peuvent perdre leur permis. Donc, plus venir travailler, plus pour être autorisé à venir travailler. Donc, d'où le stress quand le soir arrive de les ramener pour qu'ils puissent pointer et pouvoir revenir et pas perdre leur autorisation.
La priorité au quotidien pour sœur Claire Emmanuelle avec les employés et les bénévoles du home, c'est de prendre soin et rassurer les résidents dans cette ambiance, dans cette atmosphère de guerre. Et ça passe par des choses très simples, prier, cuisiner, jouer, enjoliver la vie pour survivre.
Les personnes âgées sont pas forcément en capacité de tout comprendre. Beaucoup ne réalisent pas ce qui se passe. Mais ceux qui réalisent, on discute avec eux. Et comme c'est une période où il y a, pendant le Ramadan, en fait, beaucoup à la télé, ils mettent comme chez nous en France à Noël, vous savez, beaucoup de films qui sont intéressants. Donc, on fait en sorte de les divertir. Et puis après, ce matin, par exemple, on a fait un gâteau. Après, on prie avec le chapelet, on les amène à l'adoration. Il y en a un qui a joué aux dames, aux échecs. On fait des jeux, on fait des activités, on reste beaucoup de temps avec eux. Donc, ils ne se rendent pas forcément compte. Pour eux, c'est... Voilà. Je pense que c'est l'avantage, en fait, quelque part. Et puis, ils sont entourés. Et les familles sont rassurées parce que j'ai beaucoup de messages de familles qui me demandent comment ils vont et tout ça. Donc, on les rassure, on leur envoie des photos. Voilà, on essaye de rassurer les uns et les autres sur la situation, en fait.
Sœur Claire-Emmanuelle est originaire d'Azerex, près de Tarbes. Alors, pourquoi ne pas revenir ici, loin du tumulte, loin des bombes? Elle n'y pense même pas. Sa place est là-bas, dit-elle. Revenir, elle ne l'a même pas envisagé une seule seconde.
Donc, j'y pense même pas. J'ai un peu le blues, par moment. Je me dis, c'est là, quoi. J'ai même pas envie de revenir. On a plus besoin de réconfort que d'avoir envie de revenir, parce que ben, on est heureux de les accompagner, d'être là avec eux, et on se dit, ben, eux, ils n'ont pas le choix. Et ils n'ont pas le choix. Moi, j'ai le choix, mais eux, ils n'ont pas le choix. Et donc, du coup, et puis je me dis, ben, le sens de ma vie, elle est là. Et puis je me dis, ben, ça donne tout son sens à notre vocation. Notre convocation, c'est les filles de Notre-Dame des Douleurs. Notre-Dame au pied de la croix, au pied de ce mur, voilà, ce mur immense là, qui est, ben, Marie, elle espérait auprès de la croix. Ben, nous, on est là pour leur donner l'espoir, l'espérance que ça va aller mieux. Et pour eux, c'est une force. Et pour eux, c'est une grâce de savoir que nous, on est là et qu'on ne les abandonne pas, quoi. On est là avec eux jusqu'au bout. Et encore ce matin, quoi, enfin, ils en reviennent pas qu'on soit là et qu'on fasse autant avec eux. Et même là, donc, pour dire les belles choses, parce qu'il y a des belles choses qui se passent, de très belles choses qui se passent, on a un avocat qui est juif et il m'a envoyé un message pour demander comment on allait. Il a envoyé un message pour dire, si vous avez besoin, n'hésitez pas, dites-nous. Donc, il est capable de venir dans ce quartier qui est musulman et où même aucun juif n'arrive à venir, quoi, tellement ils ont peur de venir, quoi.
La réalité au Moyen-Orient, en Terre Sainte, à Jérusalem-Est, au-dessus du home Notre-Dame des Douleurs, la réalité, ce sont les attaques, les roquettes, les missiles, au home en travaux, pas d'abri, pas de lieu sûr. Alors, aussi dingue que cela puisse paraître, on continue à vivre, on reste ensemble quand les sirènes retentissent. Sœur Claire-Emmanuelle.
En fait, c'est fou, mais on continue à vivre normalement parce qu'on est avec les personnes âgées et on n'a pas d'abri. Elles sont dans une salle, elles sont ensemble. Que faire? Que faire? Si le missile, il tombe, quoi. Enfin, on va dire que c'est une résignation, mais c'est vrai que... Que faire? Que faire? On n'a pas un endroit plus protégé qu'un autre. Ici, nous n'avons pas. Et puis, c'est privilégié qui? Les chambres, elles sont au sous-sol et il y a déjà des vitres. Donc, il n'y a pas. On ne peut pas. Et puis, on est en plein travaux. Donc, la cave est en plein travaux. Donc, on ne peut pas. Et puis, c'est petit, la cave. Donc, on ne peut pas. Non, on reste ensemble. On reste ensemble. On reste ensemble. Jusqu'au bout.
Jérusalem, c'est cette ville sainte qui paraît être aussi bien l'enfer que le ciel, cette ville où la terreur et l'horreur se mêlent à la joie d'aimer et d'espérer malgré tout. C'est en tout cas le message, l'appel au pardon, l'appel à la paix, lancé, crié par sœur Claire-Emmanuelle depuis Jérusalem.
Que de savoir déjà qu'on pense à nous, qu'on prie pour nous et que je crois que l'avenir, c'est de regarder en nous, quoi. Et quand je regarde ce grand mur, en fait, il nous bouche l'horizon en face de nous, à l'horizontale, mais en fait, il nous appelle à regarder vers le ciel, quoi. Et que la solution, elle vient de là-haut, quoi. Et que si aujourd'hui, quelqu'un a un grief contre quelqu'un qui se réconcilie, quoi. Qui se réconcilie aujourd'hui, parce que c'est le début de la paix, elle est là, quoi. Le début de la paix, elle commence en nous, elle commence dans nos cœurs. Et si aujourd'hui on en arrive à de telles tensions internationales, c'est parce qu'au départ, il y a des petits griefs, quoi. Donc réconcilions-nous. Écoutons-nous, parce que ça peut aller parfois très loin, quoi. Et c'est triste. Ces personnes ici n'ont rien demandé. toutes elles sont, voilà, elles ont qu'une envie, c'est de, vous devriez voir chaque fois que je suis avec elles depuis que je suis ici, c'est Alhamdoulilah, merci Seigneur. que selon la volonté de Dieu, Nushkul Allah. Hier, on a prié le chapelet ensemble. Après, on avait un temps d'adoration. Ils sont venus avec nous. On a le prêtre qui habite, des prêtres qui habitent dans la rue. Ils vont nous dire la messe cet après-midi. Autant dans le confinement, les prêtres en France, ils ne pouvaient pas circuler. Autant ici, ils circulent, ils viennent. Mais même avec les musulmans, ils nous remercient. Ils nous remercient d'être là. Ils nous disent, mais ne partez pas. Ne partez pas. Si on espère, si on croit, parce qu'il y en a qui me demandent, mais comment vous arrivez à avoir la joie et à rire encore? Mais je crois, je veux croire que c'est possible. Je veux croire que les Iraniens vont être libérés de cet enfer qu'ils vivent. Je veux croire qu'un jour la paix est possible, parce que dans notre maison, c'est la paix en fait. C'est la paix. Vous voyez, les Juifs sont là, ce matin, ils ont fait un gâteau avec des employés qui étaient musulmans. Ils donnent à manger à des musulmans, des chrétiens sont là, donc c'est possible. Notre maison, ce home, cette maison home, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est la maison. La maison. La maison de Notre-Dame des Douleurs, quoi. Mais la maison de l'espérance. Au pied de ce mur, d'un côté, vous avez une église, c'est la nôtre, et de l'autre côté du mur, il y a une mosquée. Et du coup, au pied de ce mur, au pied de cette croix, on est d'actualité avec ce qu'a vécu Marie au pied de la croix, quoi. C'est l'actualité. C'est actualiser ce qui s'est vécu. Et je veux croire que notre maison, notre mission, elle est l'actualité. Notre présence, mais je me dis que Marie, c'est ce qu'elle a vécu, quoi. Et montrer que c'est possible. Marie, c'est ce qu'elle disait, le samedi saint, c'était ça. Il y a des moments, l'autre jour, on était à table, on disait, mais quel silence! Quel silence, un silence qui vous prend, quoi, qui vous prend aux tripes, quoi. Quand la sirène a fini de retentir et qu'on attend et qu'on est là, on se dit, mon Dieu, mon Dieu. Et je me dis, ben c'est ça le silence du samedi saint, c'est ce silence où on croit. On croit que Dieu, il peut faire quelque chose et qu'il n'y a que lui qui peut toucher les cœurs comme ces missiles qui touchent, mais le Seigneur, il peut toucher les cœurs. Il peut toucher les cœurs.
Voilà le témoignage poignant, bouleversant de sœur Claire Emmanuelle de la Congrégation des Filles de Notre-Dame des Douleurs. Elle se trouve à Jérusalem-Est et c'est elle qui gère l'EHPAD, le Home Notre-Dame des Douleurs. Cet entretien a été réalisé ce lundi 2 mars en partenariat avec la Dépêche Nouvelle République.
Voilà, et merci aussi donc à vous, Androse Jankovic, qui avez réalisé donc cet entretien avec sœur Claire Emmanuelle. Allez, la suite de ce Présence Midi, dans un instant, ce sera avec Anne Deloye. Anne Deloye qui va recevoir Jean-François Guiraud, qui est un acteur actif dans la solidarité. Et il est actif à l'espace Rencontre, qui se trouve à Lourdes, au CCFD Terre Solidaire.
Présence dans la Haute-Ariège, 92.7.
Qui m'avait choisi un jour pour répandre vos mots d'amour, vous qui un jour m'avez élu, je vous bénis, je vous salue. Madame, vous qui faites de votre mieux, fille de paix, mère de Dieu, vous qui donnez aux dépourvus, je vous bénis, je vous salue. Comme une flamme avec l'amour pour oriflamme, sauver leur corps, sauver leur âme. Madame, vous qui entendez les prières des pauvres pécheurs sur la terre, vous notre sœur, vous notre mère, emplissez-nous de la lumière. Avez donné l'enfant, le fruit parfait de votre sang, pour les humains faibles et nus, je vous bénis, je vous salue. Madame, vous qui apportez apporter à ce monde des feux de joie qui nous inondent, vous qui nous aimez tant et plus, je vous bénis, je vous salue. Madame, dont le cœur brûle comme une flamme avec l'amour pour Oriflamme, sauvez leur corps, sauvez leur âme. Sur la terre, vous notre sœur, vous notre mère, emplissez-nous de la lumière. Madame, vous qui m'avez choisi un jour pour répandre vos mots d'amour, vous qui un jour m'avez élu, je vous bénis.
Extrait du spectacle musical Bernadette de Lourdes, c'était à l'instant Madame. La suite de cette émission, c'est avec l'invité d'Anne Deslois et reçoit Jean-François Guiraud du CCFD Terre Solidaire.
Radio Présence à Tarascon-sur-Ariège, 100.2.
Bonjour à toutes et à tous. Je reçois aujourd'hui sur les ondes de Radio Présence Lourdes Monsieur Jean-François Guiraud. Jean-François, bonjour.
Bonjour Anne.
Alors Jean-François, vous avez été le directeur diocésain pour les pèlerinages du diocèse de Besançon, puis après vous êtes engagé comme acteur de la solidarité, alors à la fois dans le diocèse de Besançon avec le CCFD Terre Solidaire, et puis aussi comme acteur actif, vraiment très actif dans la solidarité, dans ce qui est proposé à l'espace rencontre du CCFD Terre Solidaire ici à Lourdes.
Absolument, et je suis arrivé au CCFD Terre Solidaire à Lourdes par le biais des pèlerinages, puisque c'est comme ça que j'ai rencontré le CCFD à Lourdes, que je connaissais un petit peu par le CCFD de mon diocèse, mais je n'avais pas les liens avec le CCFD de mon diocèse que j'ai actuellement avec le CCFD de Lourdes.
Tout au long de cette année, sur les ondes, nous allons recevoir des acteurs de la diaconie, du service du frère, donc des acteurs de la solidarité et de la fraternité du diocèse de Tarbes-Lourdes. Vous êtes agrégé en lettres classiques et avec vous, je me suis dit que ça pouvait être intéressant, bien qu'on revienne sur le sens des mots. Vous savez, on est dans une société où on emploie des fois un mot pour un autre, etc. Et puis des fois, on se dit, ben non, mais les mots ont un sens. Alors, avec vous, je voudrais qu'on travaille sur le sens de ce qu'est la solidarité, la fraternité et la diaconie. Alors, la diaconie, c'est même un terme un peu difficile qu'on n'emploie pas souvent. Donc, avec vous, on va essayer de mieux entrer dans ces trois termes. Qu'est-ce qui les différencie? Alors, tout d'abord, si vous voulez bien, on va se dire... La solidarité, qu'est-ce que la solidarité ?
Oui, c'est bien de commencer par ça. C'est un mot qui me parle, évidemment, en tant que bénévole du CCFD Terre Solidaire, le mot de solidarité me parle. Alors j'ai effectué quelques recherches, à la fois dans mes souvenirs et puis dans quelques dictionnaires. Alors l'origine du mot solidarité est intéressante, ça vient du latin. Solidus. Pardonnez-moi ce détour par l'étymologie, mais souvent, je pense que le détour par l'étymologie permet d'éclaircir ou de préciser le sens, parfois un petit peu imprécis, de tel ou tel mot. Alors ce mot solidus, en latin, il veut dire entier, consistant, et il exprime le lien unissant entre eux, les débiteurs d'une somme. Et ça me paraît une idée extrêmement intéressante parce que ça nous fait bien comprendre, enfin ça nous permet de mieux comprendre, du moins je le crois, l'esprit de la solidarité que nous devons avoir, parce que nous sommes les uns et les autres les héritiers de quelque chose que nous avons reçu et dont nous sommes collectivement responsables, les uns par rapport aux autres. Et ce mot solidarité désigne aussi, enfin exprime aussi le sentiment de responsabilité et de dépendance réciproque au sein d'un groupe entre des personnes qui sont moralement obligées les unes par rapport aux autres. Ce qui induit comme conséquence la nécessité de se comporter comme si nous étions directement confrontés toujours aux problèmes des autres, sans quoi l'avenir de tous serait compromis. À l'appui de cette affirmation, je reprends volontiers ce que l'on dit fréquemment au CCFD Terre Solidaire, où on fait le lien entre ce que l'on appelle l'ici et l'ailleurs, en disant assez fréquemment, l'acte, le geste le propos que nous tenons ici, il peut avoir des répercussions que nous ne soupçonnons pas, loin ailleurs. Ça rappelle cette fameuse histoire du battement d'ailes d'un papillon, hein, qui, dans une région, peut provoquer un typhon à l'autre bout du monde. Et je crois que cette idée de solidarité, enfin de lien nécessaire entre ici où nous sommes, Iketnunk maintenant, et puis là-bas où sont les autres, est une idée extrêmement importante et ça éclaire la notion de solidarité.
Et du coup, j'ai envie de dire, c'est des liens solides entre les peuples.
Absolument.
Solides entre les peuples.
Voilà.
Donc la solidarité, c'est vraiment créer des liens pour toujours entre celui qui est différent de nous ou le même que nous. Ça peut être des liens de grande proximité.
De grande proximité, oui. Et puis nous ne soupçonnons pas ni forcément ni toujours ce caractère entier, plein, solide, pour reprendre le mot que vous avez employé, entre des gens dont on peut penser que parce qu'ils vivent dans des endroits complètement différents du monde, vivent des choses complètement différentes, alors que les problèmes des hommes et des femmes, qu'ils habitent en Europe ou dans un autre coin du monde, en Amérique latine, en Asie, en Océanie ou ailleurs, finalement les problèmes sont, au-delà des différences spécifiques à chaque région, chaque coin du monde, les problèmes humains sont fondamentalement les mêmes.
Alors Jean-François, on peut vraiment dire que la solidarité permet de créer des liens forts, comme vous avez dit. Mais moi, je me souviens, j'ai l'impression entre les années 80, 90, ou même dans l'Église, on parlait encore beaucoup d'œuvres de charité. J'ai l'impression que petit à petit, le terme charité a été remplacé par la solidarité. Quel sens, qu'est-ce qui différencie solidarité et charité ?
C'est une question qui est difficile, et la réponse, bien évidemment, est difficile. D'autant plus que le mot charité a été, semble-t-il, est pénalisé par ce dont on l'a investi, ce mot.
Un peu galvaudé,
oui. Et puis un peu, ce qui a conduit, me semble-t-il, à déprécier le sens de ce mot charité. Mais par charité, il me semble qu'on désigne l'action, le geste, l'attention que l'on a à l'égard de quelqu'un qui nous est cher. Et on a souvent tendance à confondre cette idée de lien avec quelqu'un qui nous est cher avec lien avec une personne qui nous est, dans une certaine mesure, inférieure par les conditions de son existence. Alors que c'est pas ça du tout. La charité, c'est bien l'attitude que nous devons avoir à l'égard de quelqu'un que nous aimons profondément, parce qu'il nous est cher.
Oui, peut-être qu'on y mettait par un temps dans la charité peut-être une connotation religieuse et solidarité une connotation laïque. C'est peut-être poussé par
ça. Ça peut être ça aussi, la différence,
voilà,
effectivement.
Un lien qui nous est cher, comme vous avez dit. Caritas, voilà. L'amour.
L'amour, absolument.
Alors, venons à la fraternité. Après avoir bien remémoré ce qu'était vraiment profondément la solidarité, si on passe à ce terme de fraternité, comment est-ce qu'il faut l'entendre ? Quelle définition vous en donneriez ?
Alors là encore, je passerai par l'étymologie, le mot latin « frater », qui veut dire « le frère ». La fraternité, c'est le lien unissant, ou du moins qui devrait unir, tous les membres d'une même famille, et plus largement, tous les membres de la famille humaine. C'est extrêmement lié à l'idée de la solidarité. Il me semble que c'est indissolublement lié, ces deux notions. L'idée de la solidarité implique, me semble-t-il, l'idée de la fraternité, et la fraternité nécessite que nous ayons une attitude de solidarité à l'égard de ceux que, étymologiquement, nous considérons ou nous devrions considérer comme nos frères. Bon, ça, c'est la théorie. Dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Je me souviens d'une citation d'Alain, le philosophe Alain, qui disait « La fraternité, c'est bien, mais c'est difficile de près ». Voilà. C'est beaucoup plus facile, effectivement, de considérer que ceux que nous ne voyons jamais sont nos frères que d'agir, effectivement, en frères à l'égard d'eux, à leur égard, parce qu'ils sont nos frères et qu'il y a entre eux et nous des liens très profonds qui nous unissent et que l'on a tendance à oublier.
Merci. Et avant donc de terminer notre chronique, venons au terme de diaconique. On dit le service du frère. Alors on a une petite minute ou deux pour nous expliquer ce qu'on entend par diaconie.
Oui, c'est une notion un petit peu compliquée. Mais disons simplement que le mot diaconie désigne une paroisse qui a à sa tête un cardinal diacre. Étymologiquement, c'est ça, une diaconie. Bon, ça désigne toute une série d'institutions charitables qui portent secours aux nécessiteux, tout comme la fraternité, hein, les gens qui sont sans. sans revenu, sans logement, sans avenir, sans espoir, sans ceci, sans cela. Bon, la diaconie est apparue à Rome à la fin du 7e siècle, et c'était des centres d'assistance. La plus ancienne à Rome, c'est Sainte-Marie in Cosmedine, à proximité du Forum Boarium, le long du Tibre, et qui a été fondée par des Grecs orientaux. Et cette diaconie à Sainte-Marie in Cosmedine organisait la distribution de subsistance, de vivres, aux citoyens indigents, à la fin du 8e et au début du 9e siècle. Beaucoup subsistent encore, d'ailleurs, et il y a eu jusqu'à 22 diaconies, dont il reste un certain nombre aujourd'hui. Alors, j'ai essayé de réfléchir un petit peu plus largement à cette histoire de diaconie, voir comment concrètement ceci est mis en œuvre, et je me suis rappelé d'avoir participé à Lourdes à un grand rassemblement qui avait été voulu par l'Église et qui s'appelait Diaconia 2013. Et j'ai regardé ce qu'impliquait, ce qui avait été dit, ce qui avait été fait, et j'ai relu attentivement la lettre d'envoi qui avait été faite à l'issue de ces 3 jours. Et j'ai trouvé des notions, des idées qui m'ont semblé extrêmement intéressantes. Alors je vais vous en donner quelques exemples. Ensemble, première recommandation, osons le changement de regard sur les plus fragiles. Ensuite, toujours ensemble, osons le changement d'attitude au sein de nos communautés pour que les plus pauvres y trouvent leur place. Troisièmement, ensemble, osons le changement de politique à l'échelon local, tout comme à l'international. Et enfin, ensemble, osons le changement dans nos modes de vie pour respecter la création où les liens humains sont premiers. Et je me suis dit ça, c'est moderne. C'était, comment dirais-je, prophétique, et c'était l'annonce de ce qui allait suivre 2 ans après, c'est-à-dire l'encyclique du pape François, Laudato Si.
Merci Jean-François pour tous ces rappels. À une prochaine fois.
Merci à vous, Anne, de m'avoir reçu.
Voilà, c'était Jean-François Guiraud, donc, qui était interrogé par Anne Delo, un acteur actif dans le domaine de la solidarité. Merci à Anne pour cet entretien. Allez, dans un instant, on va découvrir une entreprise de lainage. Cette entreprise est installée dans le département des Hautes-Pyrénées, plus précisément sur le village, la commune de Ciotat. Ça se trouve entre Bagnères et Tournaille. Découverte des ateliers de cette entreprise qui s'appelle Valdaris dans un instant avec Anne-Rose Jankovic.
Les podcasts de Radio Présence.
Podcast de Radio Présence.
Toutes les émissions et chroniques de votre radio en réécoute sur le site internet de Présence.
Immersion.
Vivante Église.
De passage à Lourdes.
Église Actualité.
Présence Matin.
Parole d'auteur. Toutes les émissions et chroniques de votre radio. www.radioprésence.com.
Un service de Radio Présence.
Présence à Cahors. 92.5.
Si vous avez déjà eu l'occasion de vous promener du côté de Bagnères de Bigorre et de parcourir le magnifique axe qui vous conduit de Bagnères jusqu'à Tournaille, alors sans doute êtes-vous passé devant l'entreprise du Valdaris, lainage des Pyrénées, une petite entreprise familiale implantée dans le village de Ciotat et qui conserve un patrimoine et un savoir-faire typique de notre région. Nous découvrons aujourd'hui les ateliers avec Romain Lopez, gérant de l'entreprise.
Alors, on est ici dans l'atelier de confection, voilà. Donc, où on a toutes les petites machines pour coudre, pour assembler les parties des vêtements. Donc, les surjeteuses, les piqueuses, les boutonnières, pose-boutons, ourleuses, festonneuses. Voilà, on a toutes les petites machines qui servent à confectionner nos articles. Ensuite, on va passer à la production du tissu. Donc voilà, on arrive sur la première étape de fabrication du tissu. Donc nous, on reçoit les bobines comme ça, déjà teintes, déjà filées. Et on va en faire des bandes de fil qu'on va venir enrouler autour du tambour en bois. On va faire un certain nombre de tours, puis on va décaler, faire une autre bande, et ainsi de suite, jusqu'à remplir le tambour en entier. Et ensuite, on va ensouper, c'est-à-dire qu'on va mettre tous les fils qu'il y a sur le tambour en bois, on va les passer sur les rouleaux métalliques que vous avez derrière. Voilà. Et ensuite, ces rouleaux métalliques vont servir à faire notre tissu des Pyrénées. On va ensuite le tricoter sur les étapes suivantes. Voilà. Donc, on voit les bandes de fils qui ont été faites. Voilà.
Ça, c'est de la laine.
Voilà, c'est de la laine. Voilà. Et on voit les bandes de fils qui ont été faites. Et ensuite, tout en même temps, sont enroulées autour du tambour en bois. Enfin, autour du rouleau métallique. Voilà. Et ensuite, on les porte avec le palan, parce que bon, ça pèse quand même son poids. Voilà. Et donc, on va les mettre sur les métiers à tricoter. Voilà. Donc ce sont des métiers Rachel. Ce sont des métiers Rachel. Ce sont un mélange entre le tissage et le tricotage. Voilà. Le rouleau de devant va tricoter, faire des boucles dans des boucles. Et les rouleaux de derrière vont faire un système de va-et-vient qui s'apparente au tissage. On n'a pas la navette qui fait de droite à gauche. Voilà. Donc on voit quand même ici là, les aiguilles qui montent, qui attrapent les fils.
Et qui tricotent.
Et qui tricotent. Voilà. Voilà. Donc là, sur cette machine, il y a 1737 fils qui tricotent en même temps. Voilà. Donc il faut avoir l'œil dessus, pas qu'il y en ait un qui casse, voilà. Voilà. Et donc ça donne ce tissu, voilà, qui est indémaillable. C'est la première étape de fabrication. Et ensuite, on va carder ce tissu pour donner exactement de l'épaisseur, de la douceur et surtout le terme tissu des Pyrénées. Carder, ça veut dire gratter avec des chardons. À la base, on a une petite machine d'exposition là-bas. Où à l'origine, on utilisait des poilus brouillés, voilà. Carder, ça vient de chardon, en fait. On va passer le tissu dans cette machine, une carde. Donc on va gratter plusieurs fois, en droit, en vert. Dans un premier temps, on va agresser le tissu, faire sortir la fibre. Et dans un second temps, on va... Voilà, exactement.
Ça, c'est avant le passage.
Voilà. Là, il n'y a pas eu de passage. Ici, comme vous pouvez le voir, on a gratté qu'un côté d'abord. Voilà, là, ça n'a pas été gratté. Et une fois terminé, ça donne ce tissu.
C'est incroyable.
Voilà. Et ensuite, là, nous avons toutes les petites machines de finition, celles qui font les côtes, les ganses, les galons. Mis à part les boutons et les fermetures éclairs, nous fabriquons tout ici, tout sur place.
Bonjour Romain Lopez.
Bonjour.
Vous êtes le gérant de la société Valdariz. C'est une fabrique de tissus des Pyrénées, à quelques kilomètres de Bagnères de Bigorre, à Ciotat exactement. Est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter cette entreprise qui est, je crois, familiale ?
Alors oui, c'est une entreprise familiale qui a été créée par mon grand-père en 1978. Et voilà, ensuite ma grand-mère a repris, mon père, ma mère, et maintenant moi, j'ai repris en début d'année, en janvier. Et voilà, c'est une tissu de lainage des Pyrénées, c'est un tissu 100% pure laine, donc on vient tricoter le tissu et ensuite on va le gratter pour avoir cet aspect doux, épais, chaleureux, voilà.
Donc c'est la laine qui provient des moutons des Pyrénées, pas tout à fait.
Non, alors c'est la manière de faire qui vient des Pyrénées.
D'accord.
La laine, les moutons, eux, sont étrangers, ils viennent de grosses productions néo-zélandaise, australienne, sud-américaine.
Voilà. Et ça vous arrive donc par grosse remorque, racontez-nous.
Alors non, nous on reçoit les bobines de fil déjà filées, déjà cardées, déjà teintes. Voilà, donc on choisit le fil à la couleur, on choisit la couleur qu'on veut tricoter. Et ensuite, on les met sur les métiers, voilà.
Alors votre métier à vous, c'est justement de travailler sur ces machines qu'on appelle d'un nom que vous m'avez dit tout à l'heure, mais que j'ai oublié.
Alors il y a plusieurs machines, il y a l'ourdissoir, qui consiste à faire des grosses, avec ces petites bobines de fil, on va en faire des grosses bobines. Voilà. Ensuite il y a les métiers Rachel, ce sont les métiers à tricoter, c'est un mélange entre le tissage et le tricotage. Voilà. Et ensuite, il y a la carde où on va gratter le tissu une fois tricoté. Voilà.
Et ça, c'est vous qui faites ça. Vous êtes tout seul sur ce poste-là pour gérer ces machines.
Oui, effectivement, je suis tout seul à la ligne de production de tissus. À une époque, on était plusieurs, mais voilà.
Alors, pour nous donner une idée, combien de mètres de tissu pouvez-vous produire chaque jour grâce à ces machines ? Et vous tout seul, en plus.
Alors, à la journée, on va faire une centaine, 150 mètres. Ça dépend des journées. Voilà.
Avec à chaque fois les teintes que vous sélectionnez en fonction de ce que vous envisagez de produire juste après.
Exactement, voilà.
Alors, une fois que ces tissus sont fabriqués, qu'est-ce qui se passe ? L'étape d'après, c'est quoi ?
Alors ensuite, on va découper des pièces de tissu qu'on va ensuite confectionner pour faire nos produits, nos robes de chambre, des vestes, des ponchos.
Ça, c'est la spécialité, robe de chambre, poncho, c'est la spécialité de production ici.
Oui, oui, la robe de chambre, c'est notre produit phare, on va dire. Voilà, notre produit principal.
C'est un produit qui est encore à la mode ?
Eh bien oui, plus ou moins, oui, bon, pour une certaine tranche d'âge, mais on arrive à en vendre pas mal, oui.
Alors comment on renouvelle justement le style, les propositions de style, comment on fait pour proposer des produits qui peuvent plaire à toutes les générations et voilà pouvoir aussi continuer à faire ce métier-là tout en ne tombant pas dans une spécialité pour une certaine tranche d'âge.
Eh bien, alors on a une styliste qui nous crée de nouveaux modèles. Voilà, et puis on essaye de se diversifier dans les coloris, faire des couleurs un peu plus flashy. Ouais. Voilà, des écossais un peu plus pêchus, on va dire, voilà.
Toutes les couleurs marchent.
Oui, oui, toutes les couleurs marchent. On peut faire n'importe quelle couleur. Là, on a un joli écossais, là, je ne sais pas si vous l'avez vu, avec du orange.
Ah oui, voilà, orange et un peu turquoise.
Voilà, c'est alors opale et orange, ce qui tranche. Donc,
et
voilà.
Qu'est-ce que vous allez produire avec ça? Une robe de chambre?
Oui, on va tout faire, robe de chambre, des vestes, des plaids, des couvertures... Voilà.
J'ai vu aussi dans la boutique des accessoires.
Mmh. Oui, on fait pas mal d'accessoires, des mitaines, des tours de cou, des écharpes. Voilà, on essaye de se diversifier en faisant des petits articles qui se vendent plutôt pas mal.
Donc vous êtes à la production des tissus. Vous nous avez dit que vous avez une styliste. Mmh. Il y a des couturiers, des couturières?
Oui, effectivement, il faut des couturières. Donc elles sont trois au petit atelier et voilà.
Ça veut dire que chaque pièce qui est produite est une pièce unique?
Oui, toutes nos pièces sont uniques, coupées à la main, faites à la main. Voilà, dans notre petit atelier. On les contrôle aussi manuellement. Avant de les emballer, on leur met un dernier petit coup de brosse pour redonner un peu de volume au tissu. Tous nos produits sont faits avec amour. Voilà.
C'est un vrai défi économique de porter une entreprise comme celle-ci sur un territoire comme le nôtre. Et en même temps, c'est aussi le pari de la valeur, le pari que le consommateur, l'acheteur, le client va apporter de l'attention à la qualité du produit et au côté unique de ce que vous produisez.
Oui, nous ce qui m'importe, c'est la qualité. Il faut que... Mon père m'a inculqué cette qualité, donc j'essaye d'y mettre tout mon cœur aussi dedans pour donner le meilleur de nous-mêmes. Voilà.
Alors vous avez grandi dans cet univers, vous avez repris l'entreprise familiale, pour vous c'était une évidence?
Oui, c'était une évidence, j'ai fait mes études en fonction de mes choix, j'ai toujours voulu venir travailler ici, oui.
Parce que ce métier-là, sur toutes les machines que vous nous avez présentées, ce sont quand même des pratiques très particulières. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes en France qui savent utiliser ces machines. Est-ce que vous avez, vous, le sentiment de pratiquer une profession un petit peu hors du commun?
Oui, bien sûr. C'est un métier unique, bien évidemment. Alors, en France, les fabriques de textiles se font de plus en plus rares. Donc, et de plus, le tissu des Pyrénées, je pense que je suis peut-être le seul en France à faire ce que je fais. Voilà.
Avec quand même ce retour, on le voit parfois, on l'entend parfois dans les médias, ce retour quand même aux
matières nobles, oui.
Les matières nobles, voilà. La laine a une seconde vie, vous diriez ça?
Ben oui, nous en tout cas, on essaye de lui donner une seconde vie, une seconde jeunesse. Et voilà, on essaye de faire perdurer cette matière qui est essentielle.
Comment est-ce que vous vendez? Alors je crois qu'il y a une boutique ici sur place, hein, au magasin d'usine, mais vous avez d'autres moyens de vente?
Alors on a bien évidemment le magasin d'usine, ensuite nous avons créé récemment aussi un site internet vendeur, voilà, et ensuite on vend à des boutiques de centre-ville, on vend à des revendeurs internet aussi, voilà. Et on a un autre client qui est comme un revendeur par correspondance, un peu style les Trois Suisses, voilà. Mais spécialisé, lui, dans la laine.
Qui sont vos clients? Est-ce que ce sont des personnes d'ici qui sont vraiment attachées au patrimoine et à ce savoir-faire qu'ils ont vu et dont ils ont entendu parler de génération en génération? Est-ce que ce sont aussi des touristes? Est-ce qu'il y a un petit peu de tout?
Alors on a de tout, on a des locaux, on a des curistes, on a des touristes, des gens qui passent devant l'usine, qui voient l'usine, s'arrêtent, viennent visiter nos ateliers et ensuite achètent un petit truc au magasin. Voilà, ça vient de partout.
C'est ça aussi la particularité, et je tiens quand même à le dire, c'est l'accueil et la disponibilité. Vous êtes 6 dans l'entreprise, vous avez beaucoup de travail, vous ne chômez pas, mais par contre, quand quelqu'un arrive, vous vous rendez tout de suite disponible pour faire visiter, pour présenter. Ça fait partie, c'est comme ça aussi que vous voyez votre métier, ça fait partie de votre métier de montrer, d'expliquer, et le côté pédagogique, il est important pour vous?
Oui, bien sûr, ça fait connaître notre métier, c'est essentiel. Donc, on a souvent des visites. On fait faire des visites par l'Office du tourisme de Bagnères. Ils nous amènent énormément de monde. Donc, bien sûr, quand des gens viennent visiter l'usine et nous posent des questions, on s'arrête, on leur répond. Et ça fait. Les gens ne soupçonnent pas qu'il y ait autant d'étapes de fabrication dans un vêtement. Voilà.
Ouais, et puis un réel savoir-faire avec une équipe que l'on voit jeune, et ça fait plaisir de voir ça. Alors une dernière question, un peu une question qui fâche, mais peut-être que parmi nos auditeurs, certains se disent, oh bah oui, c'est très joli, c'est très bien, le savoir-faire, acheter directement au producteur, mais tout ça, ça coûte cher, alors il vaut mieux sur des grandes lignes, voilà, des grandes chaînes de vêtements. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à cet argument du prix, entre la qualité et le prix? Quelquefois on ne sait pas quoi choisir. Qu'est-ce que vous pourriez répondre?
Je ne sais pas trop. Moi, je fais de la qualité. Voilà. Bien sûr, chaque travail mérite salaire. Donc, on se donne du mal pour faire un produit de qualité. Donc, c'est normal qu'il soit un peu excessif.
Et un produit qui dure.
Et un produit qui dure, bien évidemment, dans le temps.
Parce que là, ce que vous produisez, ça peut durer toute la vie.
Oui, ça peut durer toute la vie. Nous, on a régulièrement des gens qui viennent nous voir, nous dire, voilà, il y a 20 ans, il y a une vingtaine d'années, je suis venu acheter une robe de chambre chez vous, et là, elle commence un peu à s'user, un peu sur les coudes.
Au bout de 20 ans.
Au bout de 20 ans.
Voilà la différence entre ce qu'on achète sur des chaînes de vêtements.
Bien sûr, c'est sûr qu'un t-shirt fabriqué en Chine, il va vous faire 3 lavages, oui. Il va être un peu en biais, donc... Voilà.
Ça n'arrive pas avec les articles du Val d'Arise. Ah, en fait, j'ai encore une question. Ça, c'est un petit peu la ménagère qui se pose la question. Comment on lave? Comment on entretient? Ça ne se lave pas peut-être, la laine? Alors, c'est pas bien. Je vous vois bondir.
Non, la laine ne se passe surtout pas en machine. Sinon, on se retrouve avec un vêtement pour enfants.
Même sur les programmes spécial laine?
Oui, exactement. Nous, ce qu'on recommande, c'est un coup de brosse. Et laisser aérer. Voilà. Bon, bien sûr, si vous faites une grosse tâche avec un liquide, tout ça, il vaut mieux l'amener au pressing, lavage à sec. Mais sinon, si c'est juste comment dire,
il faut... des odeurs, par exemple.
Voilà, des odeurs. Et bien, vous mettez un coup de brosse, vous le laissez aérer. Et la laine est une matière naturelle. Elle se auto-lave, en fait.
Ah ben voilà la bonne réponse. Merci beaucoup. Alors, je rappelle le site internet www.vda.fr. www.vda.fr. Sur ce site internet, on a à la fois un petit peu d'histoire, un petit peu de présentation de votre métier, et puis la possibilité d'acheter en ligne les productions qui sont chacune des pièces est unique. Hein, voilà.
Exactement.
Voilà. Merci beaucoup.
Merci à vous. Bonne journée.
Radio Présence dans la Haute Ariège, 92.7.
Allez, un petit café et on commence la journée.
Bonjour tout le monde, bienvenue sur Radio Présence, il est 7h, très bon début de journée.
Et quoi de mieux que Présence Matin pour se réveiller? Tous les matins, de 7h à 9h, retrouvez Jonathan Botello pour vous donner le sourire, la bonne humeur et des cadeaux. Et il n'est pas seul, il est accompagné d'Isabelle Duché et de ses invités à 7h40. Présence Matin, l'émission qui égaye votre quotidien.
Balade en pays de Lourdes, en partenariat avec l'Office de tourisme de Lourdes.
Dans cette balade en pays de Lourdes avec Julie de l'Office de tourisme, bonjour Julie.
Bonjour.
On va parler du port noir de Bigorre et c'est pour nous l'occasion de saluer tous les charcutiers qui écoutent Radio Présence. Les charcutiers avec le premier statut de charcutier qui date d'il y a quelques siècles.
Exactement. Alors la charcuterie, il faut savoir que c'est un moyen de conservation qui est très très ancien. Voilà, les moyens qu'on connaît aujourd'hui de réfrigération sont très récents. Et autrefois, pour conserver la viande, il fallait bien trouver des solutions. Et donc le séchage et le salage en étaient une, au même titre par exemple que le confit que l'on connaît avec la graisse ou le fumage. Donc le sel, c'est vraiment un agent de conservation. Et les premiers statuts, effectivement, de métier de charcutier datent du 17 janvier 1475. Donc c'est très très ancien. Et les charcuteries, notamment, ont une place importante dans les Pyrénées. Et on connaît notamment tous le jambon de Bayonne, par exemple.
Ce qui nous amène à parler donc de ce port noir de Bigorre avec un climat des Pyrénées qui est bien adapté.
Exactement, le port noir de Bigorre, il fait partie intégrante déjà de la faune locale pyrénéenne, au même titre par exemple que son cousin sauvage le sanglier ou le port noir ibérique de l'autre côté des Pyrénées. Il est connu dans les vallées depuis l'époque romaine déjà, c'est une race vraiment locale et très bien implantée, très ancienne. Puis toujours, il se nourrit de ses trouvailles sur son terroir d'origine, donc des herbes, des glandes, des châtaignes, des céréales. Il est très adapté à son terroir d'origine, mais malheureusement, c'est aussi ce qui en a fait sa plus grande faiblesse au moment du développement industriel de l'agroalimentaire, puisqu'il n'était pas du tout adapté aux conditions d'élevage intensives, et ça a failli le mener à son extinction, puisqu'en 1981, il ne restait plus que deux mâles de porc noir de Bigorre dans les Pyrénées.
Alors ce porc noir qui donne un jambon parmi les meilleurs d'Europe, hein, c'est ce qu'on dit.
Exactement, c'est le grand paradoxe finalement. Ce qui a failli le tuer plus tôt est aujourd'hui reconnu pour son excellence. Ses méthodes d'élevage qui sont vraiment très douces, très longues, en font un produit d'exception, le jambon noir de Bigorre. Il est soigneusement préparé, salé et affiné. Ça peut durer jusqu'à entre 20 et 24 mois d'affinage notamment, de fabrication. Donc c'est quand même, il faut quand même avoir le temps pour pouvoir le déguster. Et notamment, on peut dire qu'il y a quatre grandes étapes pour, dans sa fabrication. Il va y avoir dans un premier temps le salage au sel du bassin de l'Adour. Donc c'est le même sel finalement que celui du jambon de Bayonne. Il va y avoir ensuite une étape de repos à froid, pendant lequel le jambon est placé dans un séchoir. Et là aussi, c'est une spécificité pyrénéenne, c'est l'effet de fun qu'on connaît bien sur les Pyrénées, qui est un vent du sud assez chaud, qui va venir sécher le jambon petit à petit. On a ensuite une étape de panage, donc ça va être comme un enduit, un mélange de graisse et de farine que l'on va mettre sur la partie entamée du jambon, finalement, pour que le séchage soit homogène, vraiment. Et ensuite, c'est l'étape la plus longue, c'est l'affinage. Comme les fromages, finalement, on va le laisser se reposer 16 mois minimum pour qu'il développe vraiment toutes ses saveurs. Donc voilà, c'est vraiment toutes ces étapes qui vont durer entre 20 et 24 mois minimum et qui sont nécessaires à l'obtention du label AOP.
On l'a compris, donc, hein, pour faire un bon jambon, il faut du temps, ce qui nous amène à parler de cette association Slow Food.
Exactement, le porc noir de Bigorre fait partie des produits phares qui sont mis en avant par cette association Slow Food. C'est une association qui est née dans les années 1980 en Italie pour contrebalancer tout simplement le développement de la fast food. Alors après, on a parlé du jambon, mais il y a aussi de nombreuses autres recettes faites à partir de porc noir de Bigorre. Donc tout ce qui est jambon entier à l'os, bien sûr, mais aussi en tranches, les conserveries. On le retrouve aussi, le jambon, dans la garbure, la traditionnelle garbure des Pyrénées. On peut le cuisiner en boudin, en pâté, en jarret. Voilà, il y a vraiment énormément de façons de travailler ce produit d'exception.
Et ces produits, on peut les retrouver à travers des producteurs locaux qui commercialisent donc ce porc noir de Bigorre dans la région.
Exactement, on peut le retrouver sous les Halles, bien sûr, au marché local, mais aussi, depuis peu, il a vraiment une maison qui lui est complètement dédiée, la maison du porc noir de Bigorre, du jambon de Bigorre, la maison Sajousse, qui se trouve maintenant à Lourdes, où on peut justement voir les jambons séchés, le déguster et en acheter.
Voilà pour le porc noir de Bigorre. Un grand merci, Julie, de l'Office de tourisme de Lourdes. Voilà cette balade en pays de Lourdes, balade gastronomique aujourd'hui. Et la prochaine fois, on fera un atelier dégustation. Voilà. Un grand merci et à la prochaine fois donc sur Radio Présence.
Merci beaucoup, à bientôt.
Balade en pays de Lourdes, en partenariat avec l'Office de tourisme de Lourdes.
Il tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si si schiarisce la voce e ricomincio il canto. Ti voglio bene assai, ma tanto tanto bene sai, ma una catena ormai che scioglie il sangue di te bene sai. Vide le luci in mezzo al mare, pensò le luci là in America, ma erano solo le lampade e la bianca scia di un'elica. Senti il dolore della musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire d'una nuvola mi sembra più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e mi credette di affogare. Se voglio bene assai, ma tanto tanto bene sai. Della lirica, dove ogni dramma è un falso, e con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare anche un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini, veri, ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche lì non ti là in America. Ti volti e vedi la tua vita, la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Se voglio bene assai, ma tanto tanto bene sai, ma è una catena ormai che scioglie il sangue.
Présence à Gourdon 104.8 Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Frappe sur Beyrouth, création d'une zone tampon dans le sud. L'armée israélienne passe à la vitesse supérieure.